10h46 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102. J'espère que vous passez un merveilleux jeudi sous beaucoup de nuages, mais aussi du soleil. Et ce soleil semble percer les nuages actuellement, donc c'est une bonne nouvelle. 418-971-101, numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Si vous avez des questions, notamment par rapport à notre prochain sujet, on va incorporer dans la discussion, d'ailleurs, dans les prochaines minutes, Maître Gabriel Martineau des Hôtels de l'équipe de Mast Avocat, avocate en droit de la famille. Mais d'abord, Catherine Bachand, on va mettre la table. Ouais. C'est une nouvelle du Journal de Québec qui fait beaucoup réagir depuis ce matin.
C'est l'ancienne conjointe d'un ancien joueur de la LNH qui le poursuit, lui, pour 600 000 $ pour enrichissement injustifié. Elle dit avoir sacrifié sa carrière pour soutenir la sienne. Selon la poursuite qui a été déposée en cour supérieure, la relation qui a duré une vingtaine d'années aurait permis au hockeyeur d'accumuler un patrimoine estimé à peu près 2 millions de $. La demanderesse affirme, elle, avoir mis ses propres ambitions professionnelles de côté pour suivre son conjoint autant en Amérique du Nord qu'en Europe, tout en assurant les responsabilités familiales et administratives. Elle réclame donc 30 % des actifs accumulés durant leur union, estimant que ses contributions ont permis à son ancien conjoint de maximiser ses revenus à lui. Elle, elle n'a jamais eu une job à temps plein. Quand l'union s'est terminée, elle avait un char qui vaut 15 000 $ et quelques centaines de dollars en banque. C'est tout.
Maître Gabriel Martineau des Hôtels est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, j'ai envie de vous demander, tu sais, sans qu'on parle nécessairement de joueurs de hockey ou de cas précis, des cas comme ça, là, de monsieur travaille, a une carrière, madame reste à la maison, ou que ce soit avec ou sans enfant, là, y a rupture. Ça arrive-tu souvent que, puis je dis monsieur, ça peut être madame, tu sais, ça peut être l'inverse, là, on va pas s'obstiner ces détails. Ça arrive-tu souvent des cas comme ça de quelqu'un qui se retrouve le bec à l'eau un peu?
Ben ça arrive effectivement assez souvent là. On en a régulièrement dans notre bureau des cas d'enrichissement injustifié comme ça ou de d'anciens conjoints qui viennent nous consulter pour voir si on droit justement à cette indemnisation là. Donc oui, ça arrive fréquemment là.
Est-ce que souvent on se rend compte que c'était quelque chose qui est volontaire ou bien ça peut arriver simplement parce que je sais pas, on prend pas la peine durant la relation de mettre les bases de ce qui arriverait en cas de rupture. Puis là, la rupture arrive, puis là, des fois, ça se fait pas dans des bonnes circonstances, puis c'est là que ça se passe pas bien?
Ben, je vous dirais que ça peut être un peu les deux. Il y en a qui pensent pas nécessairement, c'est sûr que quand on est en relation, on pense pas nécessairement à la fin de l'union, à la rupture. Donc, on se dit, là, on est une équipe, on fait les choses ensemble, on pense pas à ce qui s'en vient si jamais on se laisse. Il y en a d'autres que c'est volontaire. Il prévoit aussi, puis il y en a qui le prévoient dans des contrats de vie commune, là, qu'à la rupture, si jamais madame, parce que c'est dans la majorité des cas, là, c'est madame qui va s'occuper de la famille et tout ça, ben madame va avoir droit à une indemnisation. Mais sinon, on se retrouve là un peu dans les cas d'indemnité pour l'enrichissement injustifié, c'est là où les gens n'ont pas vraiment prévu de mécanisme d'indemnisation, là.
Peut-être que je mélange des dossiers, mais je suis pas capable de ne pas y voir un genre de contrôle coercitif dans des choses comme celle-là. Est-ce que je me trompe?
Bien, c'est sûr. Ça, peut-être que ça va loin. Là, le contrôle coercitif, c'est... On n'est pas nécessairement là-dedans. Oui, okay. Il y a des situations où on peut entrer dans le contrôle coercitif, mais encore une fois, c'est un choix aussi des conjoints de... comment ils vont organiser là leur ménage, comment ils vont décider qui va contribuer de quelle façon au ménage. Donc il y en a qui vont contribuer en argent, il y en a qui vont contribuer en service. Ça veut pas nécessairement dire qu'il y a du contrôle coercitif là dans la relation.
Là, dans le cas qui nous occupe, l'histoire d'un joueur de hockey qui, bon, de ce qu'on comprend, a fait quand même beaucoup d'argent. Là. Quand tu joues dans la Ligue nationale, c'est pas le salaire minimum, on va s'entendre. Puis en Europe, souvent, c'est quand même des bons salaires aussi. Là, madame qui arrive, qui demande 600 000 $ pour cet enrichissement injustifié-là, ça va aller devant un juge. Comment le juge fait pour décider, OK, oui, en effet, madame mérite de toucher telle somme d'argent? Sur quoi on se base?
Bien, il y a des critères pour l'enrichissement injustifié. Là, il y a 6 critères qui ont été... D'abord, l'enrichissement injustifié, c'est un recours civil. Donc, c'est pas nécessairement juste dans les cas de conjoints de fait. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde aussi là qui a droit à ça. Mais il y a des critères qui donnent ouverture au recours d'enrichissement injustifié. Faut qu'il y ait d'abord un enrichissement d'une des deux parties, un appauvrissement de l'autre. Faut qu'il y ait une corrélation entre les deux. Puis il y a d'autres critères aussi que la jurisprudence là aurait sorti. Et dans les cas de conjoint de fait, il y a aussi là certaines présomptions là qui s'appliquent quand on est dans le cas d'une union de longue durée, là un peu comme dans l'histoire là qui est sortie aujourd'hui là le joueur de hockey. Et le juge, ben, il va regarder toute la preuve, il va déterminer si oui ou non il y a enrichissement. Puis ensuite de ça, ben, il y a une méthode de calcul. Et là, dans l'article, on parle de co-entreprise familiale. Et ça, c'est une façon de déterminer comment on va réparer l'enrichissement injustifié. Donc, le juge va regarder est-ce qu'il y a co-entreprise familiale ou non. S'il y a co-entreprise familiale, ben, à ce moment-là, on va dire, ça va être la méthode de la valeur accumulée qui fait que, ben, madame va avoir droit à un pourcentage de la valeur nette du patrimoine de monsieur, par exemple. Sinon, ben, c'est une autre méthode de calcul, là, qui est peut-être, je vous détaillerai pas nécessairement, là, ça va être long et plate, mais il y a des méthodes de calcul, là, qui sont déterminées par les juges, là, quand on en vient à la conclusion qu'il y a eu un enrichissement injustifié.
Est-ce qu'on peut retourner loin en arrière? Tu sais, admettons, c'est un couple, là, qui ont été ensemble 20 ans, mais tu sais, on n'a pas les détails ici, mais ça fait peut-être 15 ans qu'ils sont séparés. Est-ce qu'on peut retourner aussi loin que ça en arrière ou faut que ce soit des trucs récents?
Mais en fait, là, il y a la prescription qui s'applique là, de 3 ans suivant la fin de l'union de fait. Là. Donc, c'est sûr qu'on peut pas retourner plus loin que ça. Mais même si se sont laissés récemment, puis à ce moment-là, la relation a duré 20 ans, ben oui, on peut couvrir les 20 ans de relation, mais il faut que ça fasse moins de 3 ans là, de la fin de l'union.
D'accord.
Le nouveau régime d'union parentale au Québec, ça aurait pu aider dans ce type de situation-là?
Ça aurait pu aider parce que madame aurait eu droit à une certaine partie du patrimoine familial accumulé, mais ça fait pas en sorte que madame n'a pas le droit à l'enrichissement injustifié. Comme au même titre que les conjoints mariés, ils ont une indemnisation, ça s'appelle la prestation compensatoire, mais c'est un peu la même chose que l'enrichissement injustifié pour des conjoints mariés. Fait que ça n'aurait pas nécessairement fait échec à la demande de madame.
OK, mais là, le patrimoine familial au Québec, là on parle du Québec, mais admettons qu'on prend le cas précis qui nous occupe là. Ils ont été en Europe aussi, ils ont été aux États-Unis. Est-ce que le fait qu'ils soient Québécois, ça les suit ou pas? On tombe sous quelle juridiction, mettons?
Ben là, ils sont pas mariés, donc c'est sûr que ça s'applique pas vraiment, mais ça s'applique, c'est la juridiction du Québec qui s'applique. Si c'est un couple marié, ben qui décide de divorcer au Québec, ben à ce moment-là, c'est la juridiction du Québec qui va s'appliquer.
OK, quand même.
OK. Maintenant, les façons dont quelqu'un, parce que là, on comprend que oui, le nouveau régime d'union parentale peut venir aider, mais autre que ça, comment quelqu'un, que ce soit femme ou homme, là, peut se protéger d'une histoire qui vire pas bien de cette façon-là?
Oui, parce qu'on protège les deux côtés au final là, quand on prend des ententes puis qu'on s'occupe de nos affaires. Là, on protège tout le monde. Là.
Exactement. Ben, un contrat de vie commune, c'est sûr que c'est une des façons de se protéger, justement, là, de s'il arrive éventuellement une rupture dans la relation, ben c'est là qu'on va prévoir un peu toutes les modalités de partage de la famille, du ménage et tout ça. Là. Fait que c'est sûr que le contrat de vie commune, c'est recommandé là, dans les dossiers où les gens sont en union de fait.
Oui.
Maître Gabriel Martineau des Hôtels de l'équipe de Mast Avocat, avocate en droit de la famille. Merci beaucoup pour votre temps ce matin.
Ça fait plaisir.
Bye-bye.
La morale de cette histoire, là, occupez-vous de vos affaires.
Oui, d'avance, parce que je compte. Puis, c'est pas le fun de prendre ta blonde et dire « Hey, on devrait checker nos affaires au cas où ça finisse. » Puis là, probablement qu'elle va te dire « Là, c'est quoi, t'as-tu l'intention de me sacrer là? » Puis l'inverse peut être vrai aussi. Mais non, c'est plate, mais c'est nécessaire. C'est comme faire un testament. Oui. C'est pas le fun de parler de quand tu vas mourir, qu'est-ce qui va arriver. Mais à un moment donné, tu vas mourir comme tout le monde. Faut le préparer.
Mais là-dessus, là, je vais faire mon âge, OK, si tu veux bien.
Vas-y.
Parce que, j'ai vécu une séparation du père de mes filles, le divorce, blablabla, toutes ces choses-là, aller en médiation. Ouais. Fait que, tu sais, je parle vraiment en connaissance de cause ici. Puis même affaire pour ce qui est d'une succession quand quelqu'un décède. Quand tes papiers sont en ordre, là, mon Dieu, que tu te facilites la vie dans des moments qui sont déjà assez difficiles. Fait que d'être capable d'avoir ces discussions-là, c'est une paix d'esprit, je vous le jure, et c'est pour ça que je vous en prie, occupez-vous de vos affaires, vous allez vous sentir tellement mieux après. C'est pas des conversations toujours faciles, mais mon Dieu, que vous vous achetez la paix, je vous le jure.
Merci pour ces sages mots, Catherine Bachand. 418-971-1001, c'est toujours le numéro pour nous joindre en studio par texto. Faites-le d'ailleurs si vous avez des questions pour notre prochain invité. Peut-être futur ministre d'un gouvernement du Parti québécois dans quelques mois, si le PQ devait être élu. Qu'il garde ou pas sa promesse de référendum dans un premier mandat. Évidemment que ce sera le sujet d'une ou de plusieurs questions avec Pascal Paradis, député du Parti québécois dans Jean Talon. Vous écoutez le Point de Max à 10h56. Le Point de Max.